Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Deux Salles Deux Ambiances. Je suis Gabrielle.
Et je suis Inès. Et aujourd'hui, on va vous parler de Eye Candy, une série MTV sortie en 2015.
Let's go.
C'est parti.
Eye Candy sort son premier épisode en janvier 2015 sur MTV. On y découvre Lindy, jouée par Victoria Justice, une hackeuse qui cherche sa sœur disparue depuis 3 ans et qui est poursuivie par un serial killer mystérieux.
Elle est entourée par sa meilleure amie Sophia, jouée par Kersey Clemons, son collègue de travail George, joué par Harvey Gillen, et un policier, Tommy, joué par Casey Dedrick.
La série s'inspire d'un livre écrit par R.L. Stine en 2004. R.L. Stine est surtout connu pour ses livres d'horreur pour enfants et ados comme la série Goosebumps ou Fear Street. La première et unique saison de Eye Candy est composée de 10 épisodes de 40 minutes, ainsi qu'un premier pilote qui n'a jamais été diffusé, qui a été réalisé par Catherine Hardwick, la réalisatrice de Twilight, le premier.
Et après ce premier pilote, la majorité des acteurs ont été recastés et plusieurs personnages ont été créés, à l'exception bien sûr de Victoria Justice qui a le rôle principal et de Harvey Gillen qui a le rôle de son collègue de travail, à la place justement des personnages qui étaient présents dans le premier pilote qui sont les personnages plus du livre. La série se termine sur un cliffhanger mais ne sera pas renouvelée pour une deuxième saison.
Si vous êtes fan de You sur Netflix, du film Nerve réalisé par Ariel Schulman et Henri Juste, ou même de Black Mirror, cette série pourrait vous plaire.
On va récaper ensemble le premier épisode de la série. Moi je trouve que c'est un assez bon pilote dans le sens qu'il pose assez bien tous les thèmes de la série, le ton de la série, il présente tous les personnages, il est très dense, mais après avoir vu ce pilote, on sait pourquoi on signe et on n'est pas déçu.
Juste avant de commencer l'épisode, je précise quelques trigger warnings pour non seulement le premier épisode, mais aussi le reste de la série. Du coup, TW pour gore, racisme, homophobie, violence sexuelle, alcool, drogue, sexe, violence policière.
Mais donc sans plus attendre, commençons le récap.
L'épisode s'ouvre sur un jeune couple qui s'embrasse. Une personne arrive en voiture et demande à la fille, Sarah, de monter avec elle. Alors, je vais être honnête, juste ces plans-là au début, j'avais un peu l'impression de regarder un feuilleton français. J'ai eu une petite vibe le jour où tout a basculé. Du coup, il s'agit de sa sœur Lindy, qui la cherche depuis 3 jours. Lindy n'est pas très heureuse des fréquentations de sa sœur, ce que je comprends, parce qu'elle a l'air d'avoir 12 ans et le mec a l'air d'avoir 25 ans. Mais bon, je sais pas, j'étais un peu gênée par la scène au début.
Mais j'ai pensé la même chose, je me suis dit, mais elle a 13 ans en fait, la meuf.
Mais oui, en fait, c'est parce qu'ils expliquent jamais quel âge elle a, mais elle
fait... Ils le disent après.
Ils le disent après.
Il est vrai, elle a quel âge, Sarah?
Mais elle a quel âge?
Elle a 16 ans.
Elle a 16 ans, elle a pas l'air d'avoir 16 ans, mais le mec a clairement pas l'air d'avoir 16 ans non plus.
Lindy et Sarah montent dans la voiture, et sur le chemin, on apprend que depuis la mort de leur mère, les jeunes sœurs sont laissées un peu à elles-mêmes, que leur père est complètement démissionnaire, il est en dépression, il se nourrit plus, il ne les nourrit plus, il en a plus rien à faire d'elles, et que Lindy a pris le rôle de parent envers Sarah, ce qu'elle rejette totalement, en lui disant « Ouais, mais pourquoi est-ce que t'en as quelque chose à faire de moi, etc. » Après, parce que t'as 16 ans, quoi, c'est... T'es une gamine, c'est...
Ouais. Alors qu'elles vont se commander à manger au drive d'un fast-food, Sarah décide d'aller aux toilettes.
Et honnêtement, c'est vraiment un truc de grande sœur. La première chose que tu dis à ta sœur quand tu la récupères d'une situation, voilà, c'est « Est-ce que t'as mangé ?»« Viens, je vais t'offrir à manger. Viens, je vais te payer McDo.
» Du coup, en revenant, Sarah se fait enlever sous le regard impuissant de Lindy.
Comment ça, il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire. Première chose à dire, il n'y a personne qui s'en fout qu'il y a une meuf qui a l'air d'avoir genre 8 ans qui est en train de se faire kidnapper dans la queue là. Genre parce que du coup, on voit, il y a d'autres personnes, il y a d'autres voitures.
Bah, il y a beaucoup d'autres voitures.
Il y a beaucoup d'autres voitures. Et genre, il y a que Lindy qui réagit. Genre, la meuf, elle se fait clairement kidnapper là. Genre, elle est en train de se faire attraper.
Elle est en train de crier, de lutter.
Et voilà et tout. Et les autres voitures, elles bougent pas alors qu'il y a des gens devant elles. Je sais pas, genre, tout le monde s'en fout apparemment.
Mais moi, en voyant cette scène pour la première fois, enfin, pour la nouvelle première fois. Je me suis dit, mais pourquoi dans tous les films Blumhouse qu'on a vus, c'est toujours une vibe de jeu vidéo d'horreur? Pourquoi là j'ai l'impression de regarder Life is Strange? Qu'est-ce qui se passe dans les couleurs, dans l'agencement en fait de la scène? Pourquoi?
C'est exactement ce que je me suis dit, parce que vraiment, en fait, genre dans cette scène-là, il y a un truc qui me gêne un peu. C'est que l'esthétique, elle est très bizarre. Je trouve que franchement, les plans sont pas mal. Au niveau genre de la composition des plans, la couleur, la lumière, tout ça, je trouve que ça fait un peu belle scène de jeu vidéo.
Et ça plante un peu l'ambiance glauque. Ouais. Avant qu'elle se fasse enlever, tu sens que là, il va se passer quelque chose, que c'est bizarre.
Ouais, mais le truc que moi, je trouve très bizarre dans cette scène, c'est le fait que je trouve que les plans sur Sarah, donc la sœur, ça passe. Il y a les couleurs néons du drive et tout, ouais, sont pas mal.
Avec le rose et tout.
Ouais, le rose et le violet. Par contre, les plans sur Victoria Justice sont dégueulasses. Et je comprends pas pourquoi. Genre,
elle est grise.
C'est les genre grises et jaunes, genre en mode ils ne travaillent que les plans sur la sœur. Et Victoria Justice, c'est rien à foutre. Alors que, enfin, à la limite, tu t'attendrais peut-être au contraire. Mais je trouvais que à chaque fois que ça passait d'un plan à l'autre, j'avais mal. Ça me faisait mal à voir aux yeux. Parce que c'était vraiment genre un plan stylé, genre ok, on est en train de regarder Drive là, genre voilà. Et puis ça passait à... Non.
Victoria dans sa voiture.
Ça passait à Victoria dans sa voiture, ça passait à une caméra cachée.
Parce genre, que quand on dit les regards impuissants de sa sœur... En fait, tu vas bien comprendre que dans la scène, donc elle a la voiture et il y a donc le mur du drive et puis après, je sais pas, une haie, enfin voilà quoi. La voiture, elle est un petit peu dans un endroit assez étroit. Que derrière, il y a plein de voitures, puisque c'est un drive, et que devant, il y a plein de voitures. Et que sa sœur, elle est tout au bout des voitures. Et donc Victoria, déjà, pour sortir de sa voiture, c'est compliqué parce que ses portes,
Les portes sont coincées. Donc elle essaie une porte, elle est coincée, elle essaie une autre. Elle est coincée. Franchement, je crois que c'est pas légal.
Mais s'il y a le feu, comment ils font les gens ?
Exactement. C'est pas normal. Genre, ma maman, les restos, ils ont pas le droit de faire ça. Mais en plus, ce qui vient après, du coup, parce qu'elle peut pas sortir par la porte, elle décide de passer par la fenêtre, ce qui aurait peut-être pu lui venir plus tôt, peut-être, parce qu'elle met 15 minutes à taper les portes.
Parce que la scène, elle est vraiment en longueur.
Oui.
Sarah, elle se bat pour sa vie. On peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Elle a donné le maximum.
Elle met beaucoup de temps à être kidnappée pendant que Lindy elle essaie d'ouvrir ses portes et ses fenêtres. Et finalement, du coup, elle passe par la fenêtre et elle décide qu'au lieu de courir sur le côté ou quelque
parce
chose
qu'il y a pas la
de
place,
trop moins logique, mais...
Parce que c'est étroit.
C'est étroit. Elle décide à la place de grimper sur les voitures devant elle et au lieu... Bon, parce qu'il pleut en fait. En même temps, on n'a pas précisé, il pleut. Et du coup, elle se met un peu à ramper sur les voitures devant elle.
Faut pas glisser, mais après elle glisse à la fin.
Elle glisse quand même.
En fait, c'est un petit peu un clip de Britney des années
oui,
2000,
exactement,
transposé dans une ambiance lugubre.
Exactement, genre c'est vraiment, elle est vraiment en train de genre ramper sous la pluie sur les voitures, elle va se mettre à
mais
chanter.
C'est pas, et c'est pas tourné de manière non plus sexy parce qu'elle fait vraiment des grimaces.
Oui, elle a peur, hein, ça se voit, hein. On n'est pas là pour faire oh là là, trop bien. Non, c'est vraiment, c'est flippant. Mais c'est pas flippant mais parce c'est trop drôle.
Hilarant. J'ai explosé de rire.
J'ai explosé de rire aussi, et surtout qu'on est genre à 3 minutes dans l'épisode. Hein. Premier épisode, 3 minutes, elle est en train de ramper sur des voitures sous la pluie.
Ça commence fort.
Ça commence très fort.
Mais donc, après ce grand moment de cinéma, flash forward, on passe 3 ans plus tard et Lindy est dans une salle de thérapie. Mais elle n'est pas dans une salle de thérapie. Elle est à son travail et elle est en contact avec des personnes qui recherchent des proches disparus. Et donc on comprend que depuis qu'elle a perdu sa sœur, elle aide d'autres gens à essayer de retrouver leurs proches. Et elle est aidée par George, du coup, son collègue de travail.
Du coup, la raison pour laquelle elle n'est pas dans la salle de thérapie, c'est parce que la série choisit pour représenter que les personnes sont en train de parler sur Internet comme s'ils étaient dans la même pièce. Donc il y a une espèce de rapprochement, mais toujours avec la distance d'Internet.
Mais je trouvais que ça donnait aussi un certain style. En fait, la série, elle a beaucoup de défauts. Elle a quelques qualités. Et une de ses qualités, c'est que elle a, dans certains moments, du style. Il y a quelque chose, il y a une tentative qui est faite. Dans beaucoup d'autres, c'est que ça reste quand même très neutre et c'est un peu dommage. Mais dans ce premier épisode, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un bon premier épisode, il y a vraiment, il y a du cœur en fait qui est mis dedans. On voit que
il y a un parti pris.
Ils ont, ouais, et que ils ont aimé ce qu'ils ont fait. Que chacun, parce que même Victoria Justice qui rampe sur ses voitures. Tu comprends qu'elle est fière. Je pense vraiment qu'elle a fait la cascade toute seule. Je
suis sûre qu'ils
sont tous fiers de ce qu'ils ont fait. Et donc toi, quand tu regardes ça, oui, ça fait film étudiant, d'accord. Mais film étudiant auquel moi je mets 17. Enfin, je sais pas c'est quoi les bons en école de cinéma.
Je pense qu'un 17 c'est logique. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été mise. Ça se voit qu'ils voulaient vraiment faire leur série, tu vois. Et je pense que ça se ressent. Il y a vraiment des tentatives esthétiques, genre quelque chose qu'ils voulaient dire.
Et ces scènes-là de fausse thérapie, etc. Ben je trouve que ça marche, ça fonctionne. Et puis c'est une manière de nous introduire l'univers de travail de Lindy. Puis aussi plusieurs fois ils font des transitions particulières dans la série. Et je trouve que ça aussi. Je dis pas que c'est réussi, mais je dis qu'ils ont tenter. Et moi, je salue la tentative.
Je suis bien d'accord. Je pense que c'est ça qui expère un peu dans les épisodes d'après, même si on n'en parlera pas là. Ils ont vraiment essayé de faire quelque chose au niveau de l'histoire, au niveau de l'esthétique, au niveau de, genre vraiment de la représentation de ce qu'ils voulaient montrer. Et c'était bien du coup dans ce pilote-là. Dis ok, il y a quelque chose là.
Voilà, mais on n'a pas fini avec le pilote. Parce que donc, Lindy, elle parle avec une maman qui cherche sa fille, une jeune adulte, qui s'appelle Julia Baker. On voit sa photo, on sait qu'elle a disparu depuis quelques temps, etc. Mais on n'en sait pas beaucoup plus.
Ensuite, Lindy, elle doit quitter son travail plus tôt parce qu'elle doit aller au commissariat se faire retirer son bracelet électronique qu'elle porte depuis 6 mois.
Donc attention, c'est une petite rebelle.
On quitte alors Lindy pour retrouver Julia Baker. Elle ouvre la porte à son date qu'on ne voit pas, mais on suit son point de vue, la caméra suit son point de vue.
Ouais, et on entend ses pensées en voix off. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que je suis en train de regarder You? Parce que c'est exactement la même chose que les pensées de Joe Goldberg.
Le discours intérieur est vraiment très... Enfin, il y a quelque chose là. I can't did it first, comme on dit.
C'est ça.
Alors du coup, l'homme entre dans son appartement et elle lui propose un verre. Il la trouve plus belle que sur ses photos et il demande si c'est l'élu.
Parce que à chaque fois, on entend sa voix off, mais on l'entend jamais lui parler directement. On n'entend pas sa voix.
On entend juste son monologue intérieur.
C'est ça.
Mais il remarque que ses dents sont mal alignées et qu'elle lui avait pas dit.
Et là, il commence à s'énerver intérieurement parce qu'en fait, il considère qu'elle lui a menti et donc qu'elle est pas parfaite et il décide de la tuer. Et là encore, c'est You. Parce que Joe, c'est la même chose. C'est il cherche quelqu'un de parfait pour le comprendre. Et bah là, c'est pareil que notre serial killer. Et en plus, Julia Baker, elle est blonde. Comme la meuf dans You, dans la première saison.
Beck, ouais.
Exactement. Donc c'est vraiment... Je pense que Netflix, il faut aller donner de l'argent. Parce qu'il y a un procès qui devrait...
Il y a du plagiat de Eye Candy. Ce qui prouve encore une fois que cette série, c'est du grand cinéma.
Après l'avoir tué, on continue à le suivre, il se balade dans les rues de New York et il explique tout son point de vue sur la vie et l'amour et le fait qu'il cherche une personne parfaite pour le comprendre, que avant c'était plus compliqué de trouver parce qu'il devait rencontrer des gens de manière plus organique, mais maintenant grâce au site de rencontre, c'est les gens même qui viennent vers lui directement et donc il a toute une pléthora de futures victimes ou futures âmes sœurs à trouver, mais qu'il cherche vraiment son âme sœur, c'est pas je vais tuer des gens dans sa tête, c'est je tuerai tous ceux qui ne seront pas parfaits, qui m'ont menti, mais je veux trouver l'amour d'abord.
C'est ça. Comme c'est ça tous. Son... C'est ça.
Visez nos numéros. Appelez-nous.
Jeune demoiselle cherche un mec mortel. Au commissariat, Lindy retrouve Ben, le policier qui l'a arrêté pour son activité de hackeuse.
Moi, je me suis dit, oh, la police.
C'est exactement ce que je me suis dit. Le mec, il est moche et en plus, il est flic. Faut choisir. Il y a trop de qui va pas là.
En plus, il la drague.
Comme on dit. En plus, il la drague. Et ça, c'est très gênant.
Parce que du coup, la première chose qu'il lui dit, c'est « Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé entre nous. » Et il essaye de renouer avec elle de manière hyper bizarre. Genre, il lui enlève son bracelet électronique.
Et on a un plan sur lui en train de genre lui caresser le mollet. C'était trop gênant.
Horrible, il est en train de lui masser la cheville.
J'adore la scène totalement absurde. Genre, elle est au commissariat. Il y a son ex qui est là, qui est flic. Et celui qui l'a arrêté. Et ensuite,
en plus, elle voulait pas le voir parce qu'elle a dit ah ouais, t'étais vraiment obligée de que ça soit toi qui vienne pour me l'enlever. Et t'es là, ouais, bah faut que je termine ce que j'ai commencé.
Et ensuite, il se met à genre lui tripoter le mollet. Enfin, genre, c'est trop. Hein. Il y a vraiment le plan sur le mollet quand il lui enlève le bracelet électronique.
C'est censé être hyper romantique.
Stop, 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 quoi.
Mais je pense qu'on n'a pas passé le mémo à Victoria Justice parce qu'elle, elle le joue comme si Lindy en avait rien à battre.
Elle a bien
elle reste de marbre. Elle le regarde en mode frérot, qu'est-ce que tu fais?
C'est la réaction qu'il faut avoir. Je suis désolée, elle a bien raison. Elle.
Oui, mais c'est écrit comme étant oh, son cœur qui est censé battre, elle est censée hésiter, lutter contre.
Non, 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 là, non. Non, 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 non. Moi, j'admire ses choix. Victoria Justice, elle a raison. Mais du coup, elle part ensuite retrouver sa meilleure amie Sophia dans le club où elle travaille.
Et ça, c'était vraiment ce qui manquait à la série, la meilleure amie noire.
C'est ça. Elle parle à Sophia de l'interaction avec Len et Sophia lui dit que c'est une mauvaise idée de recommencer quelque chose avec lui, même si c'est le type d'amour
qui vole une partie
de ton âme. Je suis pas sûre.
C'est son âme sœur.
C'est un peu un truc que tu dirais si t'es genre au milieu d'un exorcisme.
Bah surtout que le mec il a genre 10 ans de plus qu'elle. Quoi.
Oui, et ça se voit. Genre l'acteur a 10 ans de plus qu'elle, genre voilà. Mais le personnage, de manière réaliste, a probablement aussi 10 ans de plus qu'elle et ça se voit vraiment. Et c'est gênant, Berk.
Et donc Sophia lui répond qu'il faut absolument qu'elle date de nouvelles personnes pour l'oublier et qu'il faut qu'elle commence à enchaîner quoi. Mais Lindy est pas trop réceptive.
Du coup, Lindy rentre chez elle et hack la base de données de la police, même si je suis pas sûre qu'elle a hacké quoi que ce soit, je crois qu'elle a juste utilisé son mot de passe.
Le mot de passe de Ben. Mais c'était censé être un hackage.
Ouais.
C'est une grande hackeuse. Mister Robot devrait avoir peur.
Mais du coup, donc elle va sur la base de données pour essayer de trouver le dossier de Julia Baker, mais elle le trouve pas. Mais du coup, après, on voit que, autre part dans la ville, le corps de Julia Baker est retrouvé par des gens sous un pont qui est en train de jouer au football.
On voit la petite balle de foot
qui est en train de rouler.
Je me dis, j'espère que c'était pas des enfants. Ensuite, on retourne avec Lindy. Et donc, Sophia et Lindy, c'est la nuit, elles sortent le soir pour aller en boîte. Et Sophia dit à Lindy qu'elle a inscrite sur un site de rencontre qui s'appelle Flirtual, qui est un peu plus Grindr que Tinder. Dans le sens où tu mets ton périmètre de recherche et Sophia lui dit « Ouais, ce soir, il faut que tu pécho. » Donc on réduit le périmètre de recherche à moins d'un kilomètre, enfin vraiment la superficie en fait du club. Là, c'est bon là. Tu vas swiper, tu vas rencontrer tout de suite. C'est maintenant ou jamais. Lindy est pas trop d'accord, mais elle dit « Ok. » Quand elle rentre dans le club, elle croise le meilleur ami de Sophia, qui s'appelle Connor. Il déteste Lindy. Et là, tu te dis, ok, encore un cliché. Après la meilleure amie noire, on a le gay best friend.
Ouais, et genre vraiment, et c'est pas juste genre ta présence qui est cliché, mais genre ça se voit dans l'écriture, dans tout. C'est vraiment le cliché. On est vraiment en 2015 là.
C'est ça, la coupe de cheveux. En fait, il ressemble vraiment au mec qui joue dans GBF. Avec petit, c'est pas un polo, mais la petite chemise et tout et tout. C'est vraiment ce mec-là qui a grandi.
Ouais, c'est juste le cliché à fond.
Voilà, il parle de manière sassy à Lindy.
Exactement.
Sophia aussi, elle parle de manière sassy de toute façon.
De toute façon, voilà. Donc on a de la combinaison cliché raciste, cliché homophobe qui s'allie pour parler à Lindy, pour être son squad.
C'est ça. Et Connor, même s'il aime pas trop Lindy, je crois qu'à un moment donné, c'est dit dans la série, je sais plus, c'est dans le premier épisode, qu'ils sont frenemies, qu'ils sont amis-ennemis, quoi. Il l'aide quand même à matcher, à swiper sur l'appli. Sophia et lui, ils regardent les gens dans le club, ils sont là, ouais, non, lui, il est trop moche, lui, ça passe, lui, c'est un red flag, lui, c'est un fétichiste des pieds, enfin, voilà. et donc, il l'aide à choisir des matchs.
Alors, Lindy rencontre successivement 3 matchs, donc un avocat,
qu'on saura après, qui s'appelle Jake,
un pédiatre,
qui s'appelle Peter,
et un concessionnaire automobile, qui s'appelle Rhys, qui a vraiment une tête d'intelligence artificielle.
Ouais. On dirait qu'on a fait un puzzle avec son visage. On n'a pas réussi le puzzle.
Je sais pas si vous connaissez ce genre de graphisme, mais genre les gens qui font, ok, on a mélangé les visages de tous les étudiants en commerce de HEC, et c'est un peu ça qu'on aurait en fait.
Ouais.
C'est un visage très moyen, très vague, et il a une tête de connard. C'est ce qu'on a besoin de savoir.
On n'a pas dit que Jake, il est beau. Pourquoi ? Parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Theo James.
C'est un peu Theo James si t'as enlevé tes lunettes.
Ouais, mais dès que tu le vois au début, quand il passe devant, tu dis ouh.
Tu le vois passer dans le bar, il y a beaucoup de monde, t'es là genre, c'est Theo James. Et c'est pas Theo James, c'est un mec australien random. Dans le club, elle croise aussi Tommy Callahan, donc un autre policier, qui l'accuse d'avoir hacké dans la base de données pour chercher les personnes disparues.
En fait, on voit que c'est censé être un personnage important et qu'il est censé avoir une relation un peu hostile à Lindy, mais donc qu'il y a quand même quelque chose entre eux. Et il lui dit, ouais, c'est pas parce que Ben est encore amoureux de toi que moi, je ferai pas mon travail et je t'arrêterai pas si besoin. Donc c'est assez spécial. Et on apprend que Ben est encore amoureux de Lindy.
Ouh.
Il lui a volé une partie de son âme.
Il lui a chatouillé le mollet.
En sortant du club, Lindy reçoit un message d'un numéro inconnu sur son téléphone en lui disant que c'était un plaisir de l'avoir rencontré ce soir. On voit que quelqu'un l'observe par les caméras de rue.
De retour chez elle, elle essaye de retrouver le type qui lui a envoyé les messages en utilisant ses capacités de hackeuse, mais elle se fait hacker son ordinateur par la personne du coup qui lui a envoyé les messages et elle réalise que la personne l'observe à travers sa webcam. Et là, je pense qu'on comprend quelque chose.
Elle est nulle.
Elle est un peu nulle. Je veux dire parce que c'est pas genre une petite webcam, genre le truc intégré à son ordinateur. Non, c'est une webcam au-dessus de son ordinateur, avec la petite lumière qui clignote, qu'elle ne couvre pas, qui est toujours connectée à son ordinateur, parce qu'en plus, si elle a pas de truc intégré, théoriquement, elle est hackeuse, elle devrait savoir que c'est facile. Mais non, elle met 5 minutes à comprendre que quelqu'un est en train de l'observer par sa webcam, et puis elle fait... Somebody's watching me. Et moi j'ai rigolé. Désolée.
C'est un peu creepy aussi parce que du coup on voit plein de photos d'elle prises dans la rue sur son ordinateur et à aucun moment elle, en fait elle a pas de conscience qu'il y a d'autres hackers dans le monde.
À part du coup son pote George qui fait la moitié de son taf à sa place.
Quand Sophia et Connor rentrent à l'appartement le lendemain matin, parce que Lindy était partie plus tôt, elle leur raconte absolument tout et elle réessaye de hacker le hacker sans succès. Elle réfléchit et elle se dit « Ok, c'est probablement un des trois matchs que j'ai eu » parce qu'il m'a dit « C'était un plaisir de t'avoir rencontré ce soir » et elle prend la décision d'aller à d'autres dates avec les trois, séparément, hein, pour essayer de trouver lequel est le stalker.
Donc elle leur donne rendez-vous au club de Sophia. Pendant les dates, Sophia invite Ben à être là pour surveiller.
Sans que Lindy sache.
Pendant les dates, Lindy télécharge sur leur téléphone une application espion qui est cachée à travers un jeu pour pouvoir du coup les surveiller. Et lorsque Ben voit ça, il interrompt son date avec le pédiatre en se faisant passer pour un barman.
Et quand il arrive, je crois avoir vu, qu'à l'exception de lui-même, les autres barman, ils sont torse nus.
C'est possible.
Parce que je me suis dit, mais attendez, les barman, ils sont à poil.
C'est pas hygiénique, ça.
C'est pas hygiénique, c'est dangereux. Mais surtout, c'est quel type de club, en fait? On est où, là? C'est New York, mais quand même.
J'ai même pas remarqué. Faut pas juger, hein.
On est dans un Hollister. À la fin des trois dates, donc le dernier date, c'est celui avec le pédiatre, George vient chercher Lindy en voiture et elle se fait pas raccompagner par le pédiatre chez elle. Et elle décide directement de pister les trois suspects avec son téléphone grâce à l'application qu'elle a installée. Sauf qu'elle se rend compte qu'elle a échangé son propre téléphone avec celui du pédiatre. Et donc elle sort de la voiture, elle court, elle a « Non Peter !» pour essayer de le retrouver. Sauf que elle arrive dans un parc et elle le voit donc assis sur un banc. Elle dit « Peter,
Peter !»
Et il bouge pas parce qu'en fait il est mort. Et il a le téléphone dans la bouche.
Oui.
Et le téléphone se met à sonner.
Et Lindy, du coup, elle décroche. Et après, elle a un message qui lui dit bah, Lindy, je pensais qu'on était exclusifs. Mais déjà, moi, j'ai envie de dire, il est mort très vite, Peter, quand même. Ça fait genre 5 minutes qu'elle n'est plus avec lui. Le mec a eu le temps de crever.
Ouais, mais trancher la gorge, c'est rapide, hein.
Ouais, mais 5 minutes, quoi. Voilà. Et il a eu le temps de crever, d'être posé avec le téléphone dans la bouche, d'être genre installé, genre sur le banc, tout ça. Et puis, quand même, elle est un peu stupide. Elle met vraiment beaucoup trop de temps à comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas pour quelqu'un qui est en train de se faire stalker. Parce qu'elle est vraiment là pendant 5 minutes à faire « Peter ! Peter ! Wouhou ! »
Retourne-toi, Peter !
Retourne-toi, Peter ! J'ai son téléphone ! Alors que le mec, il est dead, ça se voit, il bouge pas. Enfin, genre, il dit rien. Enfin, il est mort.
Dans un parc, il y a un lampadaire, t'as la balançoire qui se balance. C'est encore une fois, cutscene.
C'est un peu stupide. Donc, elles seront au commissariat et Ben et Tommy lui expliquent qu'ils ont pas trouvé qui était la personne qui lui a envoyé ces messages.
Qu'il y a des VPN, que ça renvoie à l'adresse, machin.
Parce qu'en fait, ils font partie de c'est des cyber-détectives.
Non, mais tu dis ça en mode Galactic Football. C'est une division de la police pour les crimes sur informatiques et plus.
C'est ça, ils sont pas Robocop, hein, mais voilà. Lindy leur dit qu'elle a hacké le site Flirtual et qu'elle a trouvé que trois personnes disparues avaient aussi des comptes sur l'application.
Dont Julia Baker.
Et qu'ils avaient tous reçu des messages bizarres comme elle.
Elle pense qu'il y a un serial tueur à New York et qu'il utilise l'application Flirtual pour trouver ses victimes. Tommy la regarde un peu en lui disant « Écoute ma fille, si on est chez la police !» Et il la croit pas du tout. Mais Ben, lui, il est intrigué et il veut la croire et il l'écoute. Il la raccompagne chez elle parce qu'elle est traumatisée un petit peu quand même. Elle vient de trouver un cadavre. Quand il arrive chez elle, il va prendre sa douche chez elle.
Oui.
Parce qu'il est à l'aise, le monsieur.
Oui.
Ils ont rompu depuis au moins 6 mois.
Quand il l'a arrêté.
Et là, il arrive et « Ouais, je vais aller prendre ma douche. » Quand il sort de la douche, il la voit pas et tout, donc il est en train de flipper, il sort son flingue, il est en mode « Lindy ! Lindy ! »
Toujours torse-poil, hein.
Il arrive sur la terrasse où elle était juste en train de prendre l'air, de regarder « C'est quoi le pont ? C'est le pont de Brooklyn ?»
Oui, je pense que c'est le pont de Brooklyn.
Elle regarde le pont et tout, et elle est en mode « Oh, tu m'as fait peur et tout », et commence à flirter.
Et il lui fait « Ah, c'est pas juste, toi t'es plus habillée que moi !» Alors que personne lui a demandé de courir partout torse nu, hein.
Et du coup, bah, il se passe ce qui doit se passer sur la terrasse.
Non, mais c'est horrible. Moi, j'ai des choses à dire. Déjà, la terrasse, on est à New York, je suis sûre qu'il y a des rats. C'est pas possible, c'est pas propre. Tu fais pas ça sur une terrasse à New York.
Je pense qu'il fait
froid. C'est dégueulasse. Je pense que c'est pas la météo pour aller fricoter sur la terrasse.
C'est pas propre.
C'est pas comme s'ils avaient genre une terrasse genre fancy, hein. C'est vraiment genre une terrasse.
C'est, en fait, c'est un toit, hein.
C'est un toit d'immeuble new-yorkais. Voilà.
Voilà.
Plus, et en plus, il y a un canapé qui est là.
Non, mais il y a des transats.
Non, mais c'est un vrai meuble, hein. C'était pas juste un transat, là, il y avait genre une full banquette.
Une série, Gabriel, il faut
non,
bien.
Non.
Vous avez une scène à faire ici.
On se plaint de Paris, les puces de lit, mais je suis sûre qu'il est infect.
Non, surtout, il sort de la douche.
Il retourne après. C'est horrible, la faux.
Mais surtout, en plus, après, du coup, ils sont allongés, les deux, à moitié à poil.
Sur la banquette suspecte.
Ouais. Il est en mode, ouais, regarde les étoiles. Je ne sais pas comment ils font pour voir les étoiles. Il y a trop de pollution.
On est à New York, c'est pas possible.
C'est, par exemple, à Paris, c'est pas possible techniquement aussi, mais je sais que sur mon balcon, l'été, si en face les immeubles ils sont éteints à 3h du matin, je vois des étoiles. Mais là où ils sont, il y a le pont de Brooklyn qui est allumé. Mm-hmm. Juste à côté, ils ne peuvent pas voir les étoiles. Et pourtant, la voie lactée, elle n'a jamais été aussi claire.
En plus, il y a un petit placement de produit pour la pile qui te fait voir les constellations. Du coup, ils sont en train d'agiter leur téléphone devant le ciel pour voir
qu'est-ce qu'il y a. Moi, je fais ça aussi. J'ai une appli qui s'appelle Carte du ciel.
Je pense que c'est genre l'équivalent américain là qui est en train de se faire une petite pub dans les candies. Et du coup, il passe 20 minutes à parler des étoiles de manière très poétique. C'est hyper corny. Genre,
je fais
vraiment.
Ouais, je vais t'aider à retrouver ta sœur. Il l'a pas aidé depuis tout le temps qu'il la connaît. Hein. Voilà. Elle est là, ouais, mais imagine, je la retrouve jamais. Elle est là, ouais, les gens, c'est comme des étoiles. Il en suffit d'une seule pour te montrer le chemin. Et ça, c'est une phrase qui est censée être très inspirante parce qu'elle revient dans la série.
Oui.
Ça l'a marqué, Lindsay.
Elle a fait, waouh, c'était tellement cringe. Je m'en souviens.
C'était
jamais.
Mignon.
C'est cet homme-là qui lui a volé son âme, vous comprenez ? Le lendemain, alors qu'elle est au travail, elle reçoit des nouveaux messages de son stalker avec des vidéos qui semblent être en direct de Sophia dans leur appartement. Donc elle appelle Ben au secours pour aller voir ce qui se passe. Elle appelle Sophia pour voir, mais en fait Sophia elle est au club, donc les images n'étaient pas en direct, mais du coup c'était un piège. Et Ben se fait attaquer dans l'appartement par le stalker.
Lindy, qui s'était dépêchée d'arriver à l'appartement mais était coincée dans les bouchons, etc.
D'ailleurs, il y a très New York parce que du coup elle essaie de monter dans le taxi, elle lui fait vous pouvez pas aller plus vite, et lui fait this is New York, we have traffic here. Et moi j'ai beaucoup rigolé, j'avoue, je sais pas pourquoi, mais genre il y a quelqu'un juste à la voix off qui s'est fait un petit délire au montage, et genre la scène est totalement tragique et puis t'as juste wouah derrière, c'était très drôle.
C'est le folklore new-yorkais
avec les rats sur la terrasse.
Mais donc Lindy arrive à l'appartement et elle trouve pas Ben, mais elle trouve un mannequin
en plastique, hein, pas un top modèle.
C'est le barman venu faire un défilé. Mais non, mais du coup voilà, un mannequin en plastique avec un ordinateur dans ses bras. Du coup elle doit lancer la vidéo, et quand elle lance la vidéo, ça lance un appel vidéo de Ben qui est visiblement détenu par quelqu'un. Le serial killer communique avec Lindy via l'ordinateur en écrivant des choses et lui dit de confesser ses sentiments à Ben avant qu'il soit trop tard. Donc elle lui dit qu'elle l'aime, et lui il lui fait comprendre subtilement en utilisant la métaphore des étoiles qu'il se trouve sur la terrasse, donc il est pas loin. Du coup elle court pour aller le récupérer, et lorsqu'elle arrive il est égorgé sans vie.
Tommy arrive pour emmener Lindy loin du corps,
et Tommy il arrive très vite. Moi j'ai pas compris comment il était là aussi vite. Parce que Ben a dû l'appeler, mm-hmm. Mais il est là presque au même moment que Lindy. Hein. Et comment il sait qu'elle est sur la terrasse ?
Sixième sens. Il a un Lindy radar.
Ouais.
Donc l'épisode se termine sur la voix off, salut serial killer, qui nous dit qu'il devait tuer Ben pour avoir Lindy à lui tout seul, mais aussi qu'il y a quelque chose qu'on comprendra plus tard. Personnellement, moi, j'ai compris tout de suite, c'est que Ben c'était un con. Et qu'il avait bien raison. Du coup il a fait oh you'll understand later. J'ai fait non, moi I understand right now. J'ai compris monsieur, il méritait de mourir. Il était gênant.
Je lui ai dit fallait pas finir avec la police.
Mais du coup il l'observe via une caméra de rue, et il nous dit que ce n'est que le début. Et là on a un très beau plan ici, parce qu'en fait il y a beaucoup de slow-mo.
Ouais.
Et là je pense que la slow-mo elle est particulièrement incroyable, parce que c'est Victoria Justice en train de marcher dans la rue, et il y a un troupeau de pigeons en train de s'envoler derrière elle. Et je pense que c'était fait exprès. Mais la pauvre.
Mais il y a vraiment tout le temps des plans au ralenti dans toute cette série. Ils abusent. On dirait vraiment quelqu'un qui vient de découvrir.
Ça fait vraiment genre quelqu'un a découvert. Ouais, je peux, vous savez, j'ai vu sur ma caméra, je peux changer la fréquence d'image. Et maintenant, on peut tourner au ralenti. Du coup, je vais amener notre actrice marcher là où il y a 15 000 pigeons. Et elle va tous les faire s'envoler. Ça va être archi beau. Personnellement, moi, ça m'inquiète. Beaucoup de maladies qui circulent chez les pigeons, et tu as juste foutu une actrice principale au milieu. C'est pas très cérémonieux, je trouve, comme fin d'épisode. C'est juste elle, on dirait.
C'est spécial.
C'est spécial.
Mais toute la série est spéciale.
Ouais, mais du coup, c'est ça la fin du pilote, c'est elle avec les pigeons.
C'est une fin autant couleur qui rappelle le début.
Autant couleur.
Et c'est pour ça que c'est un très bon épisode.
Il est cohérent du début à la fin. On reste au même niveau de « ok, il y a quelque chose ». On peut pas dire si cette chose est très bien, mais il y a quelque chose, c'est sûr.
Eye Candy est une série produite par les studios Blumhouse. Blumhouse, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas écouté notre premier épisode, c'est une grosse machine à série et à film, principalement d'horreur, à très petit budget. Enfin, petit par rapport au nombre de recettes qu'ils ont. Ils prennent généralement des talents qui sont connus et qui sont suivis par un assez gros groupe de fans. C'est pas des personnes qui sont connues pour leur talent ou parce qu'ils ont un CV très grand, c'est souvent des acteurs qui sont très tendance et qui ont une fanbase sur les réseaux sociaux. Ils prennent des concepts très simples, qu'ils exploitent de manière superficielle, mais dans cette simplicité, elle est universelle. C'est des peurs du quotidien. Par exemple, là, dans Eye Candy, c'est la peur des sites de rencontre. Donc, c'est aussi toujours des trucs aussi qui sont très tendances. Mais comme ce qu'on disait dans le premier épisode, ce que tu disais, Gabriel, que l'horreur, ça reflétait toujours la société à un moment donné.
Ouais.
C'est le concept de Blumhouse. Les réalisateurs de leurs films ont souvent carte blanche. Ça donne des films qui font quand même pas mal de tentatives. Ce qu'on disait sur Eye Candy, ça tente beaucoup de choses, ça a du style, ça a de la personnalité comme produit. Et c'est là aussi où on se dit que les films et les séries de Blumhouse, c'est des produits, c'est pas de l'art. On a souvent cette discussion sur le cinéma, et est-ce que c'est un truc de consommation ou est-ce que c'est vraiment un truc artistique,
c'est ça.
Avec le MCU, etc. par exemple.
Ouais.
Blumhouse, c'est des produits.
Ouais, c'est vendu à la chaîne, dans un système... Voilà.
C'est ça. Et leurs films génèrent énormément d'argent et sont connus. Vous connaissez tous au moins un film Blumhouse, Paranormal Activity,
qui était leur premier gros succès.
Mais vous avez forcément entendu des noms comme par exemple Happy Death Day.
Ouais.
Et plein d'autres films comme ça. Vous les voyez passer sur les bandes annonces. C'est connu.
La série Eye Candy, elle est assez peu suivie pendant sa diffusion sur MTV, avec entre 520 000 et 710 000 spectateurs par semaine, mais elle reçoit quand même un 7,10 sur IMDb, qui est pas mal, et un 3,8 sur 5 sur Allociné, ce qui est pas mal aussi.
Moi, je l'avais déjà vue en 2015, je me rappelle qu'elle avait fait beaucoup de bruit sur Twitter, probablement parce que Victoria Justice, et je l'avais regardée à ce moment-là.
Moi, je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Je connais Ariel Stein qui a écrit le livre. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre. J'avais jamais entendu parler de la série. Je sais qui c'est Victoria Justice, mais j'avais pas regardé Victorious, donc voilà, je la suivais pas. Mais du coup, je l'ai regardée pour la première fois parce que Inès a choisi.
Grâce à Inès.
Grâce à Inès, c'est un grand mot. Mais du coup, un mois après la diffusion du finale, Victoria Justice a annoncé sur Twitter que la série ne sera pas renouvelée pour une deuxième saison. Ce qui a laissé les fans sur leur faim parce que l'intrigue principale n'est pas résolue. Le fil conducteur du personnage de Lindy.
C'est ça, parce que Lindy, donc, elle cherche sa sœur et elle est tourmentée par un tueur en série. Le tueur en série, c'est réglé.
C'est ça.
La sœur, pas du tout. Et non. Au contraire, c'est une fin ouverte.
C'est ça.
Et comme ça dévie du livre, on peut même pas chercher dans le livre des réponses.
Enfin, le livre n'a pas grand-chose à voir. Il n'y a pas de sœur disparue ou quoi que ce soit. Il y a un tueur en série, vaguement. Ceux qui ont lu le livre, ils savent de quoi je parle. Mais du coup, il n'y a pas de sœur et du coup, ça, on n'aura pas notre réponse. Parce que je pense pas que 10 ans après, ils vont faire « Tiens, et si on rebootait Eye Candy, la série culte ?» On devrait avoir droit à une suite, juste en réponse à notre podcast, à chaque épisode qu'on fait. Quand on a des choses à dire, je pense qu'ils devraient faire « Oh, ils avaient grave raison, Gabriel et Inès. »
Je dis « On va monter notre boîte de
production. » On va monter notre boîte de prod et on va aller... acheter les droits de tous les trucs dont on parle, juste pour faire une suite. Et on va forcer les...
Donc on va parler de Merlin.
On va parler de Merlin.
Mais donc, sur ce, on va vous expliquer un petit peu. Cet épisode, il va être structuré en deux parties. La première partie va se concentrer sur le personnage principal qui est Lindy et à travers elle et ses capacités de hackeuse, parler de l'utilisation de la technologie dans la série. Et on va terminer sur une partie qui parle des personnages problématiques. Dans le sens, les personnages qui ont une écriture problématique. Pas ceux qui font des choses problématiques parce que...
Bon, on va pas parler d'un tueur en série.
C'est, ça, de...
c'est un peu
pas
problématique
bien de
le meurtre.
Tuer des gens. Mais si ça te va, on y va ?
Ok, on y va.
Ok, alors on reprend avec cette partie qui se concentrera beaucoup plus sur Lindy en tant que personnage principal et à travers elle, l'utilisation un petit peu foireuse du coup, de la technologie on peut le dire, Et en fait, on commence avec le fait que Lindy, on nous la présente vraiment comme une hackeuse professionnelle, comme un adversaire de taille face à la police et aux moyens de la police. Et elle est censée tout connaître, elle est censée être la solution miracle sur beaucoup de choses, mais en réalité, elle ne sait rien. Il y a beaucoup de personnages qui viennent l'aider et qui viennent la sauver. Et en fait, on comprend pas trop pourquoi est-ce que on la présente comme étant un personnage exceptionnel, si à côté, on lui donne pas les capacités d'être exceptionnelle.
Non, ou en tout cas, c'est les capacités, on les voit pas. Elles sont juste vaguement mentionnées, peut-être, mais c'est tout. Moi, l'exemple que j'avais, Harry Potter, on déteste, hein, mais c'était l'exemple qui m'est venu en tête.
Parce que J.K. Rowling est transphobe.
Voilà, et raciste aussi, et antisémite, et on la déteste. Mais du coup, genre, ça me fait penser, dans le premier film Harry Potter, à la fin, spoil pour le premier film Harry Potter, si vous l'avez pas vu, je sais pas.
Non, on s'en fout.
Oui, on s'en fout. Hermione, elle dit à Harry Potter, elle fait « Tu es un super sorcier, Harry !» Ok. Et tout le monde rigole, parce que dans tout le film, on l'a pas vu faire genre un seul sort. En quoi c'est un bon sorcier, il a rien foutu. Et c'était un peu la vibe que j'avais dans iCandy, dans le sens où les gens lui font « Ah, tu es une super hackeuse, Lindy !» Mais à part taper genre...
Des mots de passe.
Des mots de passe et envoyer des DM, on la voit pas faire grand-chose.
Quand il y a besoin de faire quelque chose, c'est George qui vient le faire. C'est jamais elle. Elle l'appelle, elle dit « George, j'ai besoin de nanani nanana », elle lui donne la recette de cuisine, il dit « Ah, pas de soucis, tu veux faire ça, ok. » Et boum boum boum, il vient avec sa petite camionnette et il fait son truc. Elle est censée savoir faire la même chose que lui. Parce qu'il lui parle d'égal à égal en disant « Voilà, bah j'ai fait ça, au pire tu fais ça, voilà, voilà. » Mais elle, on la voit jamais faire quoi que ce soit.
Non. Elle est vraiment là en mode « Fake it till you make it ».
Elle sait pas qu'elle est très bonne menteuse.
Je pense qu'elle y est, elle est juste au culot pendant toute la série. Après, quand t'as un hacker avec des capacités vagues, mais c'est pas le personnage principal, c'est pas grave. Mais quand c'est le personnage principal, ça enlève une partie du personnage, genre qui est important. Enfin, c'est un peu, c'est son rôle d'être une hacker.
Et ça revient sur ce qu'on disait, sur le fait que ça, c'est vraiment un problème de scénario. Parce que, en fait, ça se voit que les scénaristes, c'est des gens qui avaient quoi, 40 ans. Bah voilà quoi, le hacking, le dark web, tout ça, c'est des concepts qui leur disent des trucs vaguement. Mais comme moi, en réalité, enfin, je dis 40 ans, mais honnêtement, moi, tu me demandes d'écrire une série. Je pense que les scénaristes, du coup, c'est moi. Okay. Niveau connaissance internet. Et au lieu d'engager des gens qui savaient, ils ont dit non, tranquille, elle va taper, il y a un écran noir, ça va être écrit en vert, et puis voilà.
Genre, je pense que ça manquait un peu d'expertise. Alors, ça se trouve, ils avaient un consultant, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup consulté dans ce cas. Parce que c'est un peu traité comme de la magie.
C'est ça. Et en fait, ils balancent un tas de jargon random. Mais c'est-à-dire que limite, elle va dire « Ok, je vais reboot le VPN et me connecter à l'adresse IP pour prendre le screenshot de la page web. » Et on est censé être là en mode « Waouh, c'est un truc de ouf. » Ça ne veut... Déjà, ça veut rien dire. Et c'est des trucs qui sont hyper simples. Genre, à la limite, elle dit « J'ai appuyé sur échappe. » Et là, les gens sont là « Waouh !» Et ça se voit du coup que c'est des gens qui s'y connaissent pas.
Oui. Et du coup, c'est dommage quand la série elle est centrée sur la technologie de gris et connaître sur la technologie. Enfin, je comprends, c'est une série MTV, voilà, mais je pense qu'il y a un grand effort à faire qui n'a pas été fait par rapport à ça. Et du coup, ça nous perd dans certaines scènes quand ils sont sur l'ordinateur et que t'es là, genre ok, mais ça veut rien dire, c'est nul quoi. Vous connaissez peut-être le concept de suspension de l'incrédulité. Okay. Donc, si vous connaissez pas, c'est genre le concept comme quoi quand t'es spectateur, tu vas voir un film.
Tu sais que c'est faux, donc.
Tu sais que c'est faux. Genre, si tu vas voir un film sur la magie, tu vas faire c'est pas possible, la magie ça n'existe pas. Genre tu comprends que le film a certaines règles et c'est tout, et du coup tu acceptes ça quand tu vois le film, voilà. Mais là je comprends du coup ma suspension d'incrédulité, que genre il y a des choses sur la technologie qui vont faire qui sont pas forcément réalistes, mais j'aimerais que ce soit un petit peu plus réaliste, ou au moins que ce soit un petit peu mieux expliqué.
Ou non, je pense, sinon ce qu'ils auraient dû faire c'est partir complètement dans le délire et inventer des mots complètement random et faire ça un truc un peu comique quoi.
Ouais.
Un truc où...
C'est totalement perché.
Voilà. Ça je pense que ça aurait plus marché avec la série que le côté réaliste.
Mais je pense que c'est un peu le même problème qu'on avait avec Truth or Dare, c'est que comme c'est là pour critiquer la technologie aussi, bah ça fait un peu morale de boomer quoi.
Ouais.
Et du coup c'est un peu la même chose là, genre c'est là genre oh là là les gens sont sur les réseaux sociaux, il y a des tueurs en série.
Sur les sites de rencontres, vous voulez pas rencontrer votre amoureux de manière normale à un café, où vous prenez votre tasse de café et un cookie et vous renversez votre tasse de café et là oh non, et tu fais tomber ton cookie, il dit je vais t'en payer un autre, et puis après il te met son numéro sur ta serviette et voilà.
T'es en train de citer un film là ou c'est genre ton fantasme de rencontre?
C'est clairement mon fantasme de rencontre, c'est pas non plus un film particulier, mais c'est une scène qui est dans 10 milliards de films.
Ok.
On regarde pas les mêmes films.
Je te crois.
Mais t'as jamais... Enfin,
Non mais c'est, genre, c'est juste le cookie. C'est comme le cookie me semblait très précis. Genre généralement c'est genre elle fait tomber ses livres.
Oui c'est ça. Bah là c'est la même chose avec une tasse de café. Mais c'est juste que quand tu vas au café, tu prends pas juste un café, tu prends un cookie. Enfin tu prends un truc avec.
Ok.
Enfin je sais, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais.
Non je suis bien d'accord. Un muffin.
C'est ça voilà. Donc
j'ai pris un gras quoi.
C'est ça voilà. Du coup bon elle fait tomber ça. C'est tout. Parce que si tu renverses ton café sur le mec, généralement tu fais tomber ce que t'as dans l'autre main. Enfin après si t'es vraiment fan de cookie, tu peux sauver le cookie.
On a vraiment des discussions cinématographiques importantes.
De salle de ambiance. Dans une salle, on parle de cinéma, mais c'est pas cette salle-là. Mais pour en revenir à la technologie, donc c'est une morale de boomer, et puis surtout là, vu que c'est un personnage principal féminin, c'est sexiste.
Et le truc, c'est que genre, aussi mal construire son personnage féminin, quand c'est son personnage principal, c'est très bizarre. Et encore une fois, enfin, c'est très fréquent quand une série est menée par un homme, que le personnage féminin le plus important de la série soit très creux. Mais là, le fait que c'est le personnage principal qui soit aussi creux, ben c'est très stupide. Enfin, genre, c'est dommage. T'as une actrice qui est connue, vaguement. Donc les gens, ils veulent la voir.
Enfin, le film qu'elle avait fait juste avant, que c'est un truc, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais c'est elle et son meilleur ami. Et elle, elle est amoureuse de son meilleur ami. Et c'est genre la to-do list, un truc comme ça. Mais on voit dans ce film qu'elle sait jouer des émotions, etc. On sait dans Victoria Justice que malgré un environnement de travail terrible et très abusif, hein,
oui, on connaît les délires. De Nicolas Théon, il y a beaucoup de choses.
Dan Schneider,
c'est dégueulasse.
Il est dangereux ce monsieur en prison, s'il vous plaît. Que du coup, elle s'est surjouée. Mm-hmm. Et là, dans cette série, bah, on dirait qu'elle joue. Mais c'est même pas la neutralité, elle joue l'ignorance. Elle n'a aucune émotion, elle est complètement dénuée de toute émotion sur son visage. Et donc, c'est bizarre de lui avoir dit de jouer comme ça, parce que c'est son travail, elle est dirigée comme actrice. En plus d'avoir fait un personnage qui a zéro personnalité, même si on lui donne des enjeux personnels, sa sœur, elle en parle quasiment jamais. On s'en fout. En fait, t'as fait un personnage fantôme qui est transparent.
C'est ça.
Et c'est pas un personnage à la manière de Twilight pour que tu puisses te projeter dedans.
C'est ça.
Tu peux pas te projeter dans Lindy parce qu'elle est parfaite. Même si elle dit qu'elle est pas parfaite. En fait, elle est juste vide.
C'est ça. Enfin, c'est vraiment dommage pour un personnage principal d'avoir fait ça. Ça te perd. Elle est juste là pour avoir des plans stylés à certains moments, mais le reste du temps, t'as l'impression qu'elle subit l'intrigue, mais qu'à moitié en plus, genre, elle est toujours un peu à la ramasse. Genre, elle est vraiment pas... Elle est pas très intelligente. Et moi, et je comprends. Ok. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent aussi. Si vous m'avez déjà entendu me parler d'une série, je déteste quand les personnages sont stupides que pour le plot. Voilà, tu vois, Inès, elle savait déjà ce que j'allais dire parce que je le dis tout le temps. Et le truc, c'est que moi, je comprends qu'il fallait qu'elle soit un peu pas très fut-fut par moment parce qu'il y avait 10 épisodes à étendre où elle savait pas. Mais quand t'es au dernier épisode, toi, en tant que scénariste, tu peux peut-être faire « Ah, elle va comprendre, elle va enfin utiliser ses neurones. » Et non.
Sachant qu'en phase de construire un personnage aussi stupide, on nous répète à chaque épisode que c'est la femme parfaite. Et elle dit « Non. » Je suis pas parfaite, j'ai beaucoup de défauts. Et vous pensez qu'il va m'arriver quoi? Quand le tueur en série, il va se rendre compte que j'ai beaucoup de défauts. Il va me tuer. Et à côté de ça, on a la voix off du tueur en série. Tu n'as pas de défauts, je t'aime.
Tu es la femme
parfaite. J'ai fait la femme parfaite. Mais vraiment, c'est un truc qui est spécial. En fait, c'est vraiment le ton du coup de la série qui est pas self-aware sur ce qu'il fait, genre avec Lindy. Et ça va aussi dans des trucs beaucoup plus problématiques.
Ouais.
Parce que la série, elle parle de sujets qui sont assez graves, qui sont sombres et qui sont violents. Donc, il y a plein de... Enfin,
le meurtre.
Voilà. Déjà. Mais en fait, c'est des violences qui sont normalement beaucoup plus axées sur les femmes. Pas pour dire que les hommes ne peuvent pas être victimes de meurtre ou quoi.
Sachant qu'ils le sont dans la série aussi.
Mais c'est que, statistiquement, une femme a plus de chances de se faire tuer à l'issue d'un date flirtual qu'un homme. Et ça, dans la série, au lieu de dire que le tueur en série, par exemple, il ne touche que des femmes, et ce qui aurait pu le dire de manière assez subtile, ils le disent pas parce que la première victime qu'on voit, c'est un homme.
Ouais.
Et donc, super, bravo la représentation des bisexuels.
Et oui.
Mais bof, voilà quoi. Mais à côté de ça, ça tombe vraiment plat.
Et du coup, il y a plein de moments où c'est clair qu'il y a un certain schéma dans la réalité, dans notre société à nous, qui vont totalement ignorer dans la série pour faire genre que c'est un peu une coïncidence, que c'est juste un fait du plus tueur en série de la série, alors que du coup, comme on a dit, genre déjà juger le physique des femmes, parce qu'il y en a énormément des meufs, quand on entend son monologue intérieur, où il va juger leur superficialité en gros, genre c'est...
Elle a honte de sa peau, elle met des filtres sur les réseaux.
Et genre ça fait un peu, ah ouais, les meufs, on connaît jamais leur vrai visage, elles se maquillent trop, enfin c'est vraiment... Ouais. Le mec c'est un reply guy sur Twitter quoi, c'est... Et du coup, sauf qu'ils vont jamais dire ça, c'est vraiment juste à lui qui va pas bien, ils vont jamais dire que ça s'inscrit dans quelque chose dans la société.
Et comme il touche aussi les hommes,
ouais.
En fait, je pense que c'est pour participer à la menace qui est universelle du tueur, mais en fait, ça sonne faux. On a l'impression donc que les scénaristes ne voient pas de quoi ils parlent. Encore un autre sujet.
C'est ça.
C'est juste lourd parce que c'est pas on nous prend pour des cons, mais on n'est pas sur le même niveau d'intelligence.
Ils ont pas réfléchi assez à une série sur laquelle ils ont probablement travaillé pendant des mois. Ça, c'est dommage.
Oui.
Enfin, je veux dire, encore une fois, il y avait quelque chose à dire. Je pense
et
que...
toi, tu donnes de ton temps parce que 40 minutes, quand même. Et tu vois ça et tu vois un travail un peu bâclé, du coup tu le prends un peu comme un manque de respect.
Oui, et je veux dire encore une fois, si tu fais une série où tu veux parler des dangers d'internet, il faut être clair que la plupart des victimes des dangers sur internet, de tout ce qui est...
Bah, tout ce qui devient des violences sexuelles après,
voilà.
c'est
sur les femmes. Généralement.
Sans dire que les hommes ne peuvent pas être touchés.
Encore une fois, évidemment, que les femmes ne peuvent pas être coupables.
Oui, voilà, voilà.
Mais je veux dire que si tu te sens sur ça, mais que tu en fais absolument pas mention, même pas pour dire c'est les deux côtés, hein, c'est vraiment juste pour dire non, ça n'existe pas, c'est très bizarre. Genre faire annonce, c'est juste un danger internet et pas un danger sexiste. Enfin, majoritairement. Et c'est une occasion totalement ratée de parler de quelque chose de plus deep. C'est juste pour faire, comme je disais, genre la critique de Boomer, oh là là, les dangers d'internet, les gens ils font des trucs chelous là-bas.
Mais je pense que ça conclut bien cette partie sur l'indie et l'utilisation de la technologie et la superficialité en fait du scénario qui s'illustre à travers l'indie.
C'est ça.
Et avec ça, on peut passer à la dernière partie sur les personnages problématiques. Et on va parler là de racisme et d'homophobie principalement.
Du coup, on reprend sur les personnages problématiques, enfin l'écriture des personnages problématiques plutôt. Déjà, on a Lindy qui a pas de personnalité, mais autour d'elle, les personnages ils ont des personnalités fois 1000. Pas parce qu'elles sont mieux écrits qu'elle, mais c'est parce que eux ils ont des personnalités hyper stéréotypées.
On peut commencer directement avec Sophia, c'est le personnage, je pense, secondaire qu'on voit le plus, à part Tommy.
Ouais.
Mais du coup, c'est la personnage racisée qu'on voit le plus. Et donc, c'est la meilleure amie de Lindy, et c'est la meilleure amie de Noire, comme d'habitude. Et oufoufou, elle est fun, elle est hyper sexualisée, elle est sassy. Elle travaille dans un bar, elle parle avec des punchlines tout le temps. Elle est très snappy.
C'est des one-liners.
Voilà. Et elle a pas le droit à une histoire d'amour, elle.
Non.
Enfin, elle a un flirt romantique, mais sinon, elle a que des trucs sexuels.
Mm-hmm.
Connor, c'est censé être son ami.
Mm-hmm.
Mais on n'explore jamais vraiment leur relation d'amitié. Et donc, Sophia, elle est un peu laissée là et on sait pas trop à quoi elle sert.
Non. Elle est là pour remplir certains moments, elle a besoin d'aller à un bar, elle va au bar. Elle est là pour faire une petite blague, elle va faire une petite blague.
Et c'est elle qui inscrit Lindy sur le site de rencontre.
C'est ça.
Et Lindy veut la protéger aussi.
Oui, elle veut la protéger et elle est totalement vide de signification scénaristique en soi.
Et les problèmes qui sont liés à Sophia, ils sont liés au colorisme.
L'actrice qui joue Sophia est métisse. Et que du coup, je pense qu'on retombe encore dans un autre délire de colorisme pour moi parce qu'elle est sexualisée, tout ça, mais elle va être considérée belle, je pense que c'est en partie à cause du colorisme aussi. Dans le livre, il n'y a que des personnages blancs, par contre.
Après, bon...
Le personnage de George.
C'est ça. Du coup, c'est une combinaison de racisme et de grossophobie parce que c'est le meilleur ami de Lindy.
Ouais.
Et son collègue pourrait, aussi. Oui, et on pourrait croire, dans l'archétype, s'il avait été mince et blanc, ou même déjà juste mince, être un potentiel love interest pour Lindy.
Ouais.
Et là, jamais. Et c'est pas parce qu'il est homosexuel ou qu'il est juste pas intéressé. Enfin, on sait pas s'il est pas intéressé par Lindy, mais parce qu'en en fait, on le voit et il drague un peu tout le monde, un peu de manière lourdingue.
Ouais, il drague toutes les meufs qui passent.
Mais Lindy, elle le calcule pas.
Elle l'utilise pour faire son travail à sa place, c'est tout.
Et on s'est posé la question, est-ce que c'était plus parce que c'était un mec racisé ou plus parce que c'était un mec gros? Et c'est un peu 50-50.
Moi, je pense que c'est 50-50 parce que je pense que c'est la combinaison des deux spécifiquement qui fait qu'il est écrit comme il l'est écrit.
Parce que s'il était blanc et gros, il aurait été autorisé à être amoureux de Lindy, mais pas réciproque.
Mais peut-être il aurait trouvé une autre love interest.
C'est ça.
Alors que là, il est juste là pour draguer les gens pour la comédie. C'est vraiment pas joué en mode ah, il essaye de trouver l'amour. C'est vraiment en mode ah 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 ah, regardez, il est lourd.
Enfin, voilà.
Trop drôle. Ça aussi, c'est un cliché raciste.
Oui.
Et s'il avait été racisé, mais mince, comme on a dit, je pense que là où il aurait pu être son love interest.
Elle aurait dit non, mais il y aurait eu un peu de tension.
Voilà. Mais là, c'est la combinaison mortelle, c'est pas possible pour lui.
C'est ça.
Et du coup, il revient dans un stéréotype qui est genre le mec dans le camion en gros.
Ouais.
Qui est juste le mec d'informatique. On le voit jamais trop interagir avec les autres, il va pas être dans l'action, il va juste être derrière son écran. Et, mais du coup, enfin pour moi c'était vraiment genre ça rentre dans le cliché du gars qu'on voit pas. Et ça me rappelle quelque chose, un truc que j'ai étudié en cours d'anglais, qui était le cliché dans les années genre 70 du mec dans le bureau en gros. Pendant un moment dans certaines séries, genre, je crois que c'est Mission Impossible, mais je confonds peut-être avec une autre série, où en gros il y avait un personnage noir dans l'équipe, sauf que lui le mec il pouvait jamais quitter genre leur bureau, c'est-à-dire okay. qu'il était là en train de faire un truc mais on le voyait jamais dehors, en mode on cache les personnes racisées. Et c'était un peu la même chose là, c'est-à-dire qu'il va être dans le camion et dedans il est là avec son ordinateur et il aide Indy à faire ses trucs et c'est tout, genre il a pas le droit de trop interagir avec les gens sauf quand c'est pour la comédie.
En fait on sait rien sur lui.
Oui.
On peut pas dire c'est quoi sa plus grande peur et son plus grand rêve. Pareil pour Sophia, en fait pour les personnages racisés on ne peut pas savoir ces deux points là qui sont des points essentiels d'une construction d'un personnage.
Ouais, on connaît juste leur personnalité par rapport à Lindy.
C'est ça. Alors que Lindy du coup on sait sa plus grande peur c'est que sa sœur soit morte. Ouais. Son plus grand rêve c'est de la retrouver. Pour Tommy sa plus grande peur c'est qu'il arrive quelque chose à Lindy. Plus grand rêve caché c'est de la pécho.
Ouais.
Pour Ben bah sa plus grande peur c'est qu'il arrive ouais voilà c'est pareil. Chaque voilà. personnage blanc ils ont ces deux points là qui sont des points vraiment essentiels à la création d'un personnage. Mais tous les personnages racisés
non net.
Ils parce sont... que Sophia ça aurait pu être sa plus grande peur c'est de ne pas trouver l'amour parce que vu qu'elle voilà. flirte et tout doux et son plus grand rêve
d'avoir
c'est
son bar voilà.
pour elle. Ça aurait pu être un truc. Connor lui ah oui qui est...
on sait qu'il veut être un grand journaliste
c'est ça, il est blanc, il a aussi une écriture problématique qui est homophobe mais donc on sait que sa plus grande peur
c'est de mourir atrocement. Il a très peur du serial killer, il a plus peur du serial killer que Lindy.
Et d'être que, seul ouais. aussi parce voilà. que voilà. Et que son plus grand rêve c'est d'être un grand journaliste reconnu.
C'est ça.
Mais sinon, les personnages racisés, nada.
Rien. Enfin, c'est creux aussi du coup, enfin, c'est très bizarre.
Et parce que oui, et Connor donc il est écrit de manière hyper homophobe.
C'est ça.
On l'a un peu évoqué, hyper sassy.
Et c'est vraiment, enfin, dans son personnage il y a beaucoup de problèmes.
Même... Contrairement ouais. à Trousseur d'air, cette fois-ci c'est quand même intentionnel.
Moi je pense que la plupart est intentionnel. Je pense que le seul truc où je dirais que c'est pas intentionnel, c'est pas conscient, c'est le colorisme.
Oui, ok, c'est, je bah, pense que c'est exactement seul... ce que je veux dire. Vraiment, bravo Gabriel.
Mais le reste, moi je pense aussi que c'est intentionnel. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'intention dans la façon de représenter, enfin de remettre les archétypes à l'écran. Ce serait vraiment abusé de pas réaliser ce que tu fais.
Et je pense
quoi.
Que ça c'est prouvé par le fait qu'il y a un changement complet de casting entre le pilote qui n'a pas été sélectionné et le pilote de la série. Mm-hmm. Parce que le premier pilote, tout le cast était blanc. Il n'y avait oui. pas d'acteur non blanc à part George. Et sinon, tout le monde était blanc. Et là, à mon avis, entre les deux, ils ont eu la prod qui leur a dit non, il faut rajouter des personnages racisés. Mm-hmm. Et donc ils ont dit ok, mais on va les écrire de manière raciste.
Ok, parce que je précise, il me semble, les personnages équivalents de Sophia dans le livre, c'est une femme blanche, il me semble, qui travaille au bar, mais c'est une femme blanche. Elle a le même truc, genre elle est flirty, c'est la meuf jolie, tout ça, mais elle est blanche. Et du coup, là, pour la série, ils ont transformé son personnage et ils l'ont rendu beaucoup plus stéréotypé en faisant une femme noire. Et pour moi, du coup, c'est ça, il y a de l'intention
et
dans ce changement-là.
Bah, et puis, rien que dans le livre, du coup, Anne-Marie, qui a une idée scénaristique, la Sophia, non.
Non.
Je pense qu'on a fini avec notre dernière partie sur les personnages problématiques. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
C'est ça. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Qui parlera de The Perks of Being a Wallflower, le monde de Charlie, qui est sorti en 2012.
C'est ça.
Bisous, bisous.
Bisous.